carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Balthus, à la Fondation Pierre Janada à Martigny. Un événement mondial, car la Fondation Pierre Janada est l'unique institution à fêter les 100 ans de la naissance de Balthus, né un 29 février 1908 à Paris. Et cette manifestation se double d'un autre anniversaire d'importance, les 30 ans de la création de la Fondation Pierre Janada à Martigny dans le Valais suisse. Il n'y a pas de hasard, car la Fondation Pierre Janada a toujours entretenu, par la personne de son créateur, Léonard Janada, des liens les plus étroits avec l'artiste. Et à cette double occasion, Canal Académie est particulièrement heureux de recevoir dans ses studios M. Jean Clerc, conservateur général du patrimoine, commissaire avec Dominique Radrizzani de cette exposition Balthus, et qui fut élu à l'Académie française. Jean-Claire, bonjour.
Bonjour.
Et félicitations pour votre élection.
Merci.
Il faut rappeler que vous avez déjà signé la rétrospective Balthus au Palazzo Grassi à Venise en 2001 et celle du Centre Pompidou en 1983 et que vous êtes l'auteur du catalogue raisonné de Balthus avec Virginie Monnier.
C'est cela, exactement, oui.
Donc, avant d'entrer dans le monde secret de Balthus, puis-je vous poser une question un peu personnelle ? Vous voilà donc maintenant admis au rang des immortels. Alors, que représente pour vous cette porte franchie ? Une consécration ou un changement de cap ? Une nouvelle étape ? Ou un passage derrière le miroir ? Pourquoi pas ?
Pour l'instant, je ne saurais répondre à votre question. Je le saurais peut-être dans quelques mois, lorsque j'aurai commencé à participer, je l'espère, aux travaux de l'Académie et à connaître un peu mieux mes futurs confrères en immortalité. Pour l'instant, je ne le sais pas.
Vous êtes encore parmi les mortels.
Voilà,
nous en sommes très heureux.
Je suis dans les limbes, disons. Entre l'élection et la réception, on est un peu dans les limbes.
Donc, vous êtes largement connu dans le monde des arts. Vous avez été à l'origine de nombreuses polémiques. Vos positions tranchées n'ont pas toujours été bien comprises. Elles vous ont valu une image quelque peu iconoclaste et de provocateur, certainement. Vous y avez vous-même assez largement souscrit, d'ailleurs, en publiant, pour ne citer que les ouvrages récents, « Malaise dans les musées » ou « Le journal à Trabilaire ». Vous y abordez certains sujets très brûlants, par exemple la création d'un Louvre à Abu Dhabi, qui mérite à lui seul un examen en profondeur.
Je le crois.
Oui, mais c'est peut-être un autre débat, donc on n'y ajoute rien.
Oui, il faudrait ajouter beaucoup, 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 beaucoup de mots, avec beaucoup de virgules et beaucoup de points d'interrogation et beaucoup de points de suspension. Mais disons que c'est à la lumière de ce qui s'est passé depuis la publication de ce livre sur Abu Dhabi et la signature du contrat qui crée cette espèce de Louvre des sables, les choses sont allées dans un certain sens que j'appellerais la globalisation de la culture. Ce qui est un problème encore beaucoup plus vaste que simplement celui d'un Louvre bis, d'un Louvre en annexe à Abu Dhabi. Globalisation de la culture, ce qui pose des problèmes.
Oui, beaucoup de problèmes. Nous aurons peut-être la chance de faire un entretien réservé à cette polémique. Bon, donc, c'est un autre débat. Et aujourd'hui, d'ailleurs, on ne va pas traiter trop profondément de votre vie et de votre carrière, car nous avons l'espoir que vous voudrez bien revenir dans nos studios pour un entretien entièrement consacré à votre parcours, si vous voulez bien.
Très volontiers.
D'accord. Donc, nous pouvons aborder maintenant le sujet de l'émission, Balthus. Balthazar Klossowski de Rola, qui devient assez vite Balthus. Et c'est une image singulière que nous allons tenter de cerner. Et cette rétrospective à Martigny nous en offre d'ailleurs magistralement l'occasion, parce qu'elle nous convie à une traversée de toutes ces périodes et de tous ces thèmes. Alors Jean-Claire, pourriez-vous peut-être nous guider à travers les différentes étapes de sa vie et les œuvres majeures qui s'y inscrivent ?
Oui, on pourrait dire tout de suite que si la position de Balthus semble si singulière dans l'histoire de la peinture du XXe siècle, c'est d'une part parce qu'elle semble s'inscrire à contre-courant de la modernité, ce qui est une idée admise, mais c'est une idée qu'il faudrait sans doute réfuter point à point, en montrant que l'histoire de la modernité telle qu'on l'a écrite n'est peut-être pas celle qui a eu lieu, en particulier les courants figuratifs, ont été beaucoup plus importants qu'on ne l'a cru. Balthus n'a jamais été seul, n'a jamais été un artiste solitaire, unique dans son époque. Au contraire, il a été accompagné et soutenu par beaucoup d'autres peintres qui partageaient sa foi, qui partageaient sa vision du monde et qui, comme lui, pratiquaient l'art du portrait. Donc là, si vous voulez, il y a une réécriture à faire qui n'a pas encore été faite, qui le sera. Singulière aussi sa vie, peut-être en raison de ses origines multiples, assez peu connues au fond d'un public français qui est resté, pourrait-on dire, un peu frileux vis-à-vis de tout ce qui se passe en dehors de ses frontières. Il faut bien comprendre, je crois avant tout, que Balthus est un homme qui mélange en lui, mais qui mélange de façon homogène et magistrale un apport germanique, polonais, juif en partie, par son père et par sa mère, une connaissance de la culture germanique absolument extraordinaire, une connaissance de la culture italienne qu'il va acquérir un peu plus tard, la culture latine, connaissance de la culture anglaise, et bien évidemment la culture française. Donc il est, si vous voulez, un Européen parlant couramment et admirablement le français, l'italien, l'allemand, l'anglais, citant qui l'on veut des grands écrivains de ces quatre domaines. Et les références, évidemment, sont peu perceptibles pour un œil français. Et donc il a fallu progressivement déchiffrer ces strates multiples de connaissances et de cultures diverses pour comprendre l'originalité de Balthus, qui n'est pas la singularité, mais qui est au contraire une espèce d'osmose extrêmement riche de différents courants, différents humus dont il vient.
Un vrai cosmopolite.
Un cosmopolite au sens, oui, au sens des Lumières ou au sens du romantisme. Quelqu'un qui franchit les frontières et qui possède admirablement la connaissance des pays dont il est l'hôte.
Et donc les différentes étapes de sa vie.
Il naît, si vous voulez, à Paris en 1909, donc une année, son anniversaire se déroule le 28 février, donc il ne sera célébré qu'une fois tous les 4 ans, c'est quand même là aussi une singularité, si vous voulez, mais qui influencera peut-être la vision étrange qu'il a du temps et du passage du temps, de la durée. Son père est un Berlinois, mais d'origine polonaise, peintre, Eric Lesowski. Sa mère, Baladine, celle à laquelle Rilke écrira sous le nom de Merline, est elle-même peintre, d'origine également germano-polonaise, vous savez, ces régions qui sont à cheval entre la Pologne et l'Allemagne, d'origine juive. Il naît à Paris, et par la suite, si vous voulez, c'est pendant la guerre en 14, évidemment, en tant que citoyens allemands, ils sont expulsés de France et vont aller vivre en Suisse. La Suisse sera sa seconde patrie, celle dans laquelle il vit ses années d'enfance et celle à laquelle il retournera dans les 20 dernières années de sa vie. Donc la Suisse est véritablement au milieu de l'Europe, si vous voulez, une espèce de foyer, de centre d'une rose des vents idéale vers laquelle il revient sans arrêt. Et même à un moment, il dira « Je suis un peintre suisse ». Évidemment, vous me demandez qui je suis un peintre suisse. C'est une boutade, mais en même temps, c'est une vérité. Et c'est très bien que la Fondation de Giannana ait décidé, à Martigny, de célébrer le centenaire de Balthus, au fond, mi-chemin entre l'Italie, l'Allemagne et la France.
Oui. D'ailleurs, il y a également une fondation Balthus, pas loin de la fondation Pierre Giannana.
Tout à fait, dans le grand chalet où il a habité les 20 dernières années de sa vie, au-dessus de Montreux, dans le pays d'en haut, comme on appelle ça en Suisse. C'est à Genève que Baladine, divorcé d'Eric Lesowski, va rencontrer Rilke en 1919. Et Rilke va devenir une espèce de père spirituel du jeune Balthus, quelqu'un d'extrêmement présent, au point qu'il sera son premier conseiller, qu'il sera son premier éditeur, puisqu'il lui fait publier le petit recueil de Mitsou, qui sont des dessins que Balthus fait à l'encre alors qu'il a 12 ans. Et l'amitié entre Rilke et Balthus sera extrêmement intense jusqu'à la mort de Rilke en 1929, si j'ai bonne mémoire, ou 1927. En tout cas, il y a là une espèce de rencontre extrêmement féconde entre le grand poète autrichien et le tout jeune Balthus. Par la suite, c'est Rilke aussi qui le poussera à aller en Italie découvrir la peinture du Quattrocento. Ça se passera en 1926, donc peu de temps avant la mort de Rilke. Et c'est le moment où Balthus va, il est encore tout jeune, faire des copies des fresques d'invention de la Vraie Croix de Piero della Francesca dans l'église d'Arezzo. Donc, vous voyez la complexification progressive de cette enfance. Et puis, finalement, bon, Paris devient le lieu d'élection à la fin des années 20, 29. Sa mère, Baladine, va tenir un salon littéraire rue Malebranche, où elle habitait, qui sera dit Jean Cassou, qui fréquentait ce salon, l'une des dernières sociétés éclairées de l'Europe, c'est-à-dire un salon où l'on rencontrait indifféremment les gens de la NRF, Gide et Grotheusen, par exemple, ou Valérie, les grands Espagnols comme Suarez et Unamuno, les Allemands, évidemment, Thomas Mann.
Donc vraiment l'élite...
Kaiserling, donc vraiment l'élite de la fin des années 20. Oui. Et Balthus, qui à l'époque a tout juste 20 ans, va baigner dans cette amitié des écrivains et des poètes. Après Paris, à nouveau la guerre, à nouveau la fuite hors de Paris. Ça sera à nouveau la Suisse comme refuge. Puis à nouveau Paris après la guerre. Et il quitte Paris, il s'installe à ce moment-là, cours de Rohan, au cœur du côté de l'Odéon, et quitte Paris en 52-53. À un moment, il considère que la ville devient de plus en plus insupportable à vivre, envahie par les voitures, dit-il, et par le bruit. 52.
Ça n'a pas changé.
Ça n'a pas changé, je crois que ça a empiré considérablement. Je ne sais pas ce qu'il pourrait penser aujourd'hui. Il va se réfugier dans la solitude d'un petit château campagnard au fin fond du Morvan.
À Chassis.
Chassis, oui.
C'est une sorte de ferme, c'est ça ?
C'est une espèce de grande ferme, grand château ferme, avec une véritable ferme qui sert à l'économie du château, si je puis dire, comme c'était le cas autrefois. Et il y restera jusqu'au moment où la renommée de Balthus, mais ça on pourra y revenir, recommençant d'apparaître après une longue éclipse, André Malraux, ministre de la Culture à l'époque, lui propose la direction de la Villa Médicis, donc ce sera là. Le retour en Italie, non pas cette fois-ci en Toscane, mais à Rome, à la Villa Médicis.
Où il transforme tout.
Où il va tout transformer, ça sera sa principale mission. Il va peu peindre pendant ces années de la villa. Il va au contraire devenir une espèce de metteur en scène extraordinaire, ce qu'il avait d'ailleurs déjà été. C'est un aspect de sa vie qu'on ignore un peu, c'est qu'il a fait des décors de théâtre et des costumes, à la fois pour Antonin Artaud et pour des opéras de Mozart. Il adorait cette activité de scénographe ou de metteur en scène. Et là, il va le faire sur un plan architectural en redonnant à l'ancienne Académie de France, à la Villa Medici, sa splendeur d'autrefois, à la fois en retrouvant des fresques, en restaurant des fresques, en repeignant les murs, en refaisant les jardins qui étaient laissés à l'abandon. Et ce sera sa principale activité. Et puis, quand il quitte la villa, alors, dans les dernières années de sa vie, soit dans les années 70 ou 70, on dirait en Italie, en Suisse, il va s'établir dans ce grand chalet, le grand chalet, qui est le plus grand chalet de Suisse, effectivement, à Rossinière, où il vivra jusqu'à sa mort. Donc voilà une espèce de vie faite à la fois de pérégrination et en même temps très centrée, toujours, sur une certaine idée de la culture. Si on peut parler de culture européenne, c'est bien là qu'elle est.
Oui. Avec plein de paradoxes, donc en même temps solitaire, en même temps très mondain.
Oui.
Il paraît qu'il y avait, il avait un carnet d'adresses qui pourrait être le carnet mondain de son temps.
Que n'importe qui pourrait envier, exactement.
Oui. Oui. Et puis Malraux aussi était donc un personnage important dans sa vie, parce que c'est, vous venez de le dire,
oui. C'est
lui qui lui a confié donc la direction de la Villa Médicis à Rome,
oui. Mais
c'est lui aussi qui l'envoie au Japon, il rencontre sa femme
Setsuko. Va rencontrer sa seconde femme, Setsuko, oui, dont il aura deux enfants, un qui meurt en bas âge et l'autre, une fille, Harumi, qui vit actuellement aux États-Unis.
Et qui vient de mettre au monde un petit
Exactement,
enfant.
Exactement, je vois que vous êtes très au courant.
Oui, on est renseignés.
Il y a un mois ou deux mois, tout au plus.
Et donc, les principales œuvres qui s'inscriraient dans cette pérégrination, comme vous venez de le dire, c'est-à-dire, vous avez mentionné tout à l'heure Mitsu,
oui,
qui était vraiment son œuvre initiatique en quelque sorte.
Oui, c'est ça, l'histoire d'un chat.
Et qui a été préfacée par
Rilke. Une merveilleuse petite préface de Rilke, très belle. Mais il a 12 ans à l'époque. Mais bon, c'est un enfant précoce, il n'y a pas de doute.
C'est une série de dessins à l'encre.
Ce sont des dessins à l'encre, oui.
40 planches ou...
Quarantaine de planches,
oui,
c'est ça. Racontant une espèce de bande dessinée racontant l'amour d'un jeune garçon, Balthus lui-même, pour un chat, qui devient son ami préféré, qui un jour s'échappe L'enfant le recherche et ne le retrouve pas. Donc voilà, c'est une histoire très simple et en même temps, emblématique des premières passions de l'enfance pour certains animaux, oui. Le chat en particulier.
Justement, j'allais passer à la question suivante pour dégager certains thèmes récurrents donc, dans son œuvre. Vous parlez des chats, alors commençons par les chats. On parlera des femmes et des jeunes filles qui sont ultra connues après. Mais les chats, alors qu'est-ce que vous avez peut-être à ajouter à cet amour pour les chats que Balthus cultivait.
Je crois qu'il n'a pas été le seul homme d'esprit, homme d'intellectualité et de sensibilité à accepter les chats dans son intimité. Il n'y a guère que les chats qui peuvent respecter par leur silence et par leur contemplation le travail d'un poète ou d'un peintre. Comme Baudelaire, si vous voulez, Balthus est un baudelairien qui adore les chats parce qu'à la fois ce sont des animaux contemplatifs et silencieux. Sont des animaux sacrés, comme tout le monde le sait depuis toujours dans les religions. Ce sont des animaux qu'on momifie, dont on fait des momies. On ne va pas faire des momies avec des cochons. Avec les chats, oui. Ce sont des animaux qui ont des liens particuliers avec l'au-delà. Et puis, ce sont des animaux à la fois très affectueux et un peu cruels. Enfin, les coups de griffe, ça existe. Et Balthus est quelqu'un lui-même dans son comportement qui faisait alterner l'attention puissante, la tendresse excessive et brusquement le coup de griffe inattendu et qui fait mal. Il y a une part de cruauté chez Balthus qui n'a jamais cessé d'être, oui, comme chez les chats.
Oui, c'est beaucoup identifié, même physiquement.
Oui, même physiquement, chat, parce qu'il y a ce fameux tableau qui s'appelle le chat de la Méditerranée, qui était l'enseigne du restaurant de la Méditerranée, qui existe toujours. Et en fait, le chat qui est attablé et qui mange sa bouillabaisse est un autoportrait. C'est exactement, morphologiquement, la tête de Balthus.
Oui, à propos de sa tête. Donc au début, il y a, paraît-il, dans ses traits, une grande ressemblance avec un chat. Ses yeux et son nez, enfin tout son visage. Mais après, vous lui avez rendu visite et vous avez trouvé qu'avec l'âge, il prenait plutôt la tête d'un oiseau, déplumé.
Oui,
même.
Bizarrement, oui. Et on cherchait le chat qui allait peut-être le dévorer au détour d'une porte. C'est vrai.
Mais permettez-moi de vous interrompre une seconde, parce que dans votre livre, donc, Autoportrait au visage absent, vous consacrez plusieurs chapitres à Balthus. Sont absolument magnifiques de sensibilité. Je ne voudrais pas me priver du plaisir de lire quelques lignes qui concernent justement les chats. Donc un petit extrait de l'autoportrait au visage absent, où vous dites « Balthus s'était voulu le roi des chats. Il vivait dans l'intimité de ces animaux que l'Égypte avait vénérés, qui découvraient dans la prunelle de leurs yeux un reflet du monde éternel. » Et dans les étincelles de leurs poils, quand on le frotte, un souvenir du feu divin. Balthus aimait les chats et les chats aimaient Balthus. Voilà pour le chapitre des chats qui sont omniprésents dans son œuvre, parce qu'il y a beaucoup de tableaux où le chat est presque le personnage central.
Il est même le seul témoin accepté dans des scènes qui en général ne supportent pas qu'elles aient des témoins.
Le regard des hommes.
Absolument.
Bon, alors parlons des autres sujets qui sont omniprésents dans son œuvre. Donc les femmes, les jeunes filles frêles, languissantes, les nymphes.
Oui.
Dans Thérèse Révan, par exemple.
Oui, Thérèse Révan, qui est un tableau qui a suscité beaucoup de questions, évidemment un peu malséantes, disons. Comment est-ce qu'un homme peut peindre des jeunes filles à peine nubiles, presque encore impubères? Je vous épargnerai tout ce que l'on a pu lire là-dessus. La question m'a tellement été posée que finalement j'y réponds, même si vous avez eu la courtoisie de ne pas me la poser, en rappelant tout de même qu'il fut une époque qui a duré très longtemps, des siècles et des siècles, où les modèles des peintres étaient très jeunes, modèles d'académie. C'était des jeunes filles qui avaient entre 15 et 16 ans. Ce n'étaient pas les dames plutôt âgées que l'on a commencé de voir apparaître dans les académies au XIXe siècle et qui ont sans doute été l'une des raisons pour lesquelles les peintres se sont détournés du modèle académique. Je vous donne là une raison un peu naturaliste, un peu positiviste, mais je crois qu'elle a été un peu négligée. On n'a pas tellement envie de peindre des corps affaissés et alourdis par l'âge. Ça, c'est le point de vue de l'historien d'art. Mais, si vous voulez, on peut aussi considérer que tout de même, si vous pensez à Pétrarque, Laure, quel âge a-t-elle ? Elle a 12 ans, 13 ans. Si vous pensez à Dante, Béatrice a 12 ans, 13 ans. Et même en allant plus loin, au XVIIe siècle, Saint-Simon, dans ses mémoires, rapporte le mariage du duc de Bourgogne, si j'ai bonne mémoire. Le roi tient à regarder, voilà un témoin qui n'est pas un chat, mais qui est un peu comme un chat. Le roi vient regarder un petit peu ce qui se passe pendant la nuit de noces. Et Saint-Simon précise que le duc de Bourgogne avait 17 ans et que la duchesse, ou la future duchesse, en avait 13. Donc, si vous voulez, il faut bien comprendre que, autre temps, autre mœurs, on dira, oui. Malthus vit au XXe siècle, n'est pas nécessairement tenu de prolonger des mœurs qui remontaient au XVIIe ou XVIIIe. C'est vrai. Mais ce qui est vrai, pour être plus sérieux, c'est qu'il va tomber amoureux de sa première femme, Antoinette de Manneville, alors qu'elle a 12 ans. C'est un amour d'enfance. Un véritable amour d'enfance, aussi fort, j'imagine, aussi violent que celui de Pétrarque pour Laure ou de Dante pour Béatrice. Il ne l'épousera pas parce que, bien évidemment, déjà à cette époque, il n'est pas question que l'on puisse épouser une jeune fille qui a 12 ans à peine et qui est à peine nubile. Mais il va lui rester fidèle et il l'épousera 10 ans plus tard, 15 ans plus tard. Donc il y a là quelque chose de très sérieux dont on ne peut pas vraiment se moquer ou ricaner. C'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Voilà, si vous voulez, les réponses que je peux apporter à la fois sur le plan du peintre qui peint des corps nus et de l'amoureux qui aime les jeunes filles ou les jeunes femmes.
Et puis au sujet de l'érotisme que ça peut évoquer, il a trouvé lui-même que c'est le regard du spectateur qui rend la vision de l'œuvre érotique lui-même. Il considérait, avec sincérité ou peut-être un peu masqué, que c'était la même chose que peindre des pommes de Cézanne.
Je serais peut-être moins attendri par la pureté de cœur de Malthus. Il y a tout de même une certaine perversité en lui qu'il ne faudrait pas dissimuler. Il est certain que lorsqu'il peint la chambre, lorsqu'il peint la leçon de guitare, ce sont des scènes délibérément érotiques et même provocantes, violemment provocantes. Il le sait, il le fait. Mais il faut comprendre aussi que, alors que le milieu littéraire qu'il fréquente chez Balanine, à la fin des années 20, est un milieu extrêmement polissé, extrêmement raffiné, polissé. Le milieu que lui, en tant que Malthus, va fréquenter dans les années 30, donc une dizaine d'années plus tard, est un milieu beaucoup plus inquiétant à beaucoup d'égards. C'est le milieu de Georges Bataille, c'est le milieu de Jacques Lacan, qu'il connaît à travers Georges Bataille, c'est le milieu d'Antonin Artaud, et c'est Pierre-Jean Jouve, tous écrivains ou psychanalystes, obsédé par le sexe et obsédé par certains aspects, un peu noirs de l'érotisme et de la sexualité. Donc, lui-même, au centre, dans ce nouveau milieu littéraire, Artaud, Lacan, Michel Léris, Bataille, Jouve, va être très tenté pendant 3-4 ans de réaliser une œuvre où la résonance érotique est très forte.
Oui. Justement, à propos de cette fameuse leçon de guitare, il explique Malthus, pardonnez-moi de faire encore une petite citation, « Les lois inébranlables de l'instinct, revenir au contenu passionné d'un art, mort aux hypocrites. Je veux y mettre beaucoup de choses, de la tendresse, de la nostalgie enfantine, du rêve, de l'amour, de la mort, de la cruauté, de la violence, des rugissements et des larmes. Tout ça dans un seul tableau. » Où se trouve-t-il d'ailleurs, ce tableau qui n'est pas à Martigny, malheureusement?
Il n'est pas à Martigny parce qu'il est dans une collection privée qui ne souhaite plus s'en défaire, ne serait-ce que pour quelques mois.
Oui. Oh, tout un univers feutré que nous allons maintenant suspendre, le temps d'un court intermède musical. Puis nous en reviendrons à Malthus lui-même, l'homme et le peintre. Vous allez entendre quelques mouvements des Vêpres de la Vierge de Monteverdi, un des compositeurs préférés de Malthus. Jean Clerc, commissaire avec Dominique Radrizzani, de cette importante rétrospective Balthus à la Fondation Pierre Giannada à Martigny en Suisse et dans nos studios à Canal Academy. Nous voudrions profiter de vos lumières pour éclairer la personnalité de Balthus maintenant, et puis aussi sa vie, ses amours, ses amitiés dont nous avons déjà un peu parlé. Mais d'abord, comment présenter le peintre, sa technique et son talent de metteur en espace ? Vous avez dit quelque part qu'il savait raconter des histoires parce qu'il savait mettre les personnages en espace.
Oui, je crois qu'il est un des très rares peintres au XXe siècle à avoir, comment dire, voulu que... D'abord, qui a d'abord cru au chef-d'œuvre. Ce qui est tout de même très culotté parce que les peintres aujourd'hui multiplient les essais. Mais faire un chef-d'œuvre sur lequel on va travailler pendant un an ou deux ans, c'est quand même très très loin, semble-t-il, de l'esthétique contemporaine. Balthus a l'ambition de faire un chef-d'œuvre. Et il fera des chefs-d'œuvre. Il y en a trois ou quatre dans son œuvre qui sont des chefs-d'œuvre. Et en même temps, c'est un autodidacte. C'est-à-dire qu'il n'y a personne auprès de lui pour lui apprendre à peindre. Donc il va apprendre à peindre de bric et de broc. Et en fait, il était un très mauvais peintre du point de vue de la technique. Il ne savait pas trop bien comment manier les couleurs et moins encore comment les disposer sur la toile. Si bien que ces tableaux, paradoxalement, sont, entre guillemets, mal peints. Mal peints techniquement, c'est-à-dire qu'ils sont très fragiles. Ça ne tient pas. Les diverses couches n'adhèrent pas les unes aux autres et c'est parfois une catastrophe de les transporter parce que ça tombe. Voilà un paradoxe.
Alors que, en regardant ces tableaux, pardonnez-moi de vous interrompre, oui. On a l'impression que c'est une perfection absolue. Ouais.
C'est en même temps une perfection, c'est-à-dire qu'effectivement, je connais très peu de peintres qui aient eu une telle science du chromatisme. Si on prend le passage du commerce, par exemple, c'est un tableau admirable, où la lumière est admirable. Et il y a très peu de tableaux contemporains où il y a une telle lumière. Donc à la fois, il a une sensibilité de peintre extraordinaire, mais techniquement, il est défaillant parce qu'en fond, il n'a pas appris à peindre et personne ne savait, n'a pu lui apprendre à peindre. C'est assez fréquent aujourd'hui, c'est-à-dire. Mais... Donc voilà. Donc il veut faire des chefs-d'œuvre, il fait des chefs-d'œuvre. Le passage du commerce, il a mis 3 ans à le terminer. La montagne, qui est son premier chef-d'œuvre à 33 ans, c'est un immense tableau. Il mettra 2 ans à le terminer. Et ces grandes compositions sont des compositions, c'est-à-dire qu'elles racontent des histoires. Elles racontent des histoires. C'est pas des tableaux abstraits, c'est pas non plus une botte d'asperges sur un coin de table qui ne raconte rien. C'est véritablement des narrations où il se passe des choses. Il se passe des choses et ces choses sont mystérieuses, méritent qu'on s'y attarde et se dévoilent peu à peu à l'intelligence autant qu'elles réjouissent l'œil. Ça, c'est quelque chose d'assez rare dans notre époque. Peut-être, sauf dans la peinture, justement, germanique. Où il y a eu cette tentation de raconter des histoires, quand même. En particulier dans les années 20, dans la Neue Sachlichkeit allemande, où Beckmann est quelqu'un qui raconte des histoires. Et même quelqu'un qui était très proche de Balthus, géographiquement en tout cas, à Paris, Picasso, il y a certains de ses tableaux qui racontent des histoires, qui sont des histoires. Guernica, c'est une histoire. Certaines des grandes compositions de Picasso sont des histoires. Le rideau de parade, c'est une histoire. Ainsi de suite. Donc on est là très très loin, non seulement de la peinture abstraite, bien évidemment, mais même de la peinture qui prétend être simplement naturaliste, où on vous propose quelque chose, point. Non, là il y a quelque chose derrière qui relève de la fable, du conte, de la légende, de la mythologie, de l'histoire.
Un peu ésotérique aussi, non ? Vous parlez souvent d'un fil invisible du domaine de l'occulte, presque.
Oui, mais en fait, c'est un ésotérisme qui avec un peu de patience, s'explique totalement. Il n'y a pas véritablement d'occultisme chez Balthus. Tout se dévoile progressivement.
Pas l'occultisme cru.
Oui, non. Non, je crois qu'au contraire. Les tableaux peuvent parfaitement se déchiffrer progressivement.
Ah oui, mais vous parlez quand même de l'ambiguïté qui est une composante majeure de l'esthétique de Balthus.
Oui, parce qu'effectivement, en particulier dans les scènes érotiques, on est dans le domaine de l'ambiguïté, forcément, comme en amour. Mais il y a des tableaux qui ne sont pas des scènes proprement érotiques, qui sont aussi des scènes ambiguës parce qu'elles font à la fois, référence à l'histoire, des hommes, et en même temps à la fable, à la légende de l'enfance. Si vous voulez, je peux prendre un exemple. pour essayer d'expliquer un peu une chose qui est assez centrale dans la démarche, dans le passage du commerce Saint-André, qui est l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre, à mon avis, peut-être le plus grand par ses dimensions en tout cas, un grand, très grand tableau. C'est a priori une vue totalement naturaliste du lieu où il habite, c'est le passage du commerce qui va de la place de l'Odéon à la rue Saint-André-des-Arts, peint avec une véracité topographique parfaite. Dans ce lieu se promènent des personnages de différents âges. Il y a des enfants, il y a une vieille dame, il y a le peintre lui-même, il y a un petit bonhomme accroupi dans un coin, donc on pourrait penser aux trois âges de la vie. Et puis on se dit, un paysage topographique, naturaliste, une allégorie sur les trois âges de la vie, mais ça, forcément, le mystère s'accroît au fur et à mesure que l'on regarde un petit peu l'espèce de position figée et suspendue de ces différents personnages. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe rien. Alors on regarde un petit peu plus loin et on s'aperçoit que le peintre qui est vu de dos porte une baguette à la main, qui est une baguette qu'il est allé chercher au boulanger du coin, mais qui est en même temps une baguette dorée. L'histoire de la baguette dorée fait penser évidemment au conte de fées dont Balthus a pu se nourrir dans son enfance, en particulier dans les bandes dessinées, dans les contes pour enfants du domaine germanique, je pense en particulier où je trouve Walpeter, le fameux je trouve Walpeter que les Français ignorent, mais que tous les petits Allemands et tous les petits Autrichiens, j'imagine, connaissent par cœur. Ils peuvent réciter, ils peuvent chanter par cœur.
Je peux vous le confirmer en tant qu'Autrichien.
Vous pourriez nous réciter quelques strophes du je trouve Walpeter. Donc la baguette dorée à la main de Balthus, c'est la baguette dorée évidemment du magicien qui donne un sens à la composition. Et là, si on hésite un petit peu à accepter cette hypothèse, vous avez sur le mur au fond et au milieu du tableau une clé qui est collée sur le mur. Et c'est une clé qui est en or, c'est la clé d'or. C'est aussi la clé d'or des contes de fées, en particulier dans les contes de Grimm. Il y a toujours une clé d'or qui se promène quelque part et qu'il faut trouver pour ouvrir le trésor qui vous est caché. Donc il y a tout cet arrière-fond, si vous voulez, enfantin, de fabliaux, de contes de fées, parfois très cruels, qui se cachent derrière. Puis encore autre chose, c'est peut-être l'explication même que Balthus nous donne avec sa baguette dorée de magicien, c'est que la clé d'or elle-même est apposée sur le mur d'une boutique qui semble fermée, où il est marqué archives, registre,
oui.
Qui était une imprimerie, qui était en même temps une ferronnerie, une serrurerie. Et c'est là, apprend-on, facilement, très vite, qu'a été forgée la première guillotine. Et le passage du commerce, Saint-André, était un des hauts lieux de la Révolution française. Et Balthus habitait à 50 mètres derrière. Camille Desmoulins habitait tout près de là, l'Odéon, et Marat habitait, je crois, Robespierre habitait aussi un petit peu plus loin, par là. Et c'est dans cette imprimerie qu'était imprimé l'ami du peuple de Marat. Et c'est dans cette ferronnerie qu'a été forgée la première guillotine. Alors si on regarde le petit animal blanc qui est au milieu de la composition, on dit c'est un chien, mais non, si on le regarde de très près, c'est pas un chien, c'est un agneau. Et ça n'est autre, évidemment, que l'agneau sur lequel la première guillotine a été expérimentée dans ce passage, à cet endroit-là. Donc si vous voulez, à partir de... Je ne dis pas que tout est épuisé lorsque j'ai dit ça, mais ce que je vais montrer, c'est l'extraordinaire complexité d'une œuvre qui raconte beaucoup de choses en mêlant différents registres, comme on parle de registres de langue en littérature, de registres d'histoire ici, à la fois la réalité topographique d'un lieu de Paris qui existe encore, qu'on peut aller voir en sortant d'ici, si vous voulez, c'est à 250 mètres d'ici, il n'a pas changé. Une allégorie sur les âges de l'homme, un rappel des contes de fées dont l'enfance de Balthus a été nourrie, et en même temps un épisode révolutionnaire, exactement là où cet épisode a eu lieu.
C'est une lecture fantastiquement intéressante de cette œuvre.
Mais qu'on pourrait reprendre pour d'autres œuvres, si vous voulez.
Bien sûr, oui, peut-être on aura l'occasion un peu plus tard, mais c'est ce que j'entendais par le côté occulte, parce qu'il y a plein de pensées secrètes ou... de niveau de signification derrière chaque œuvre, enfin derrière beaucoup d'œuvres. Et que dire maintenant de ces rencontres, ces amitiés qui étaient tellement importantes dans sa vie? On a parlé bien sûr déjà de Rilke, on n'a pas encore évoqué trop Pierre-Jean Jouve, Artaud, Giacometti, Malraux, Fellini, d'amitiés.
Oui, j'évoquais cet autre cercle effectivement d'écrivains, de poètes ou de philosophes qui succède au cercle très classique que sa mère fréquentait, rue Malebranche, qui sont effectivement ceux que vous avez cités, et qui appartiennent tous quand même, qui sont tous un peu une communauté d'esprit. Jouve, c'est le sexe et la catastrophe, et la mort. Bataille, c'est le sexe et la violence, et la mort. Antonin Artaud, le sexe, la folie, la violence et la mort.
Et la cruauté.
Et la cruauté. Et puis, on pourrait rappeler que si Balthus rencontre Lacan à travers Georges Bataille, il rencontre la psychanalyse à travers la femme de Pierre-Jean Jouve, Blanche Reverchon, qui était elle-même psychanalyste. Donc, dans les années 30, après 33, il est dans un milieu, vraiment à Paris, qui est au cœur des débats philosophiques, idéologiques, intellectuels du petit monde parisien. Ce qui entraînera une équivoque véritable. Les surréalistes imagineront que Balthus est des leurs, qu'ils peuvent enrôler Balthus, tout comme ils ont essayé d'enrôler Giacometti.
Enrôler, qu'est-ce que vous voulez dire?
Enrôler, ça veut dire considérer que Balthus comme Giacometti peuvent être des espèces de surréalistes d'honneur que l'on va mettre dans les bataillons du mouvement surréaliste. Giacometti, comme vous le savez, claquera la porte, puisque Breton ne comprenait pas qu'on pût essayer de faire une tête.
Au grand maître.
Au grand maître, oui, c'est ça. Donc Giacometti s'en va et Balthus lui-même, après avoir été tenté, parce que bien évidemment il n'est pas connu, c'est un jeune inconnu, donc il est très tenté bien sûr de rentrer dans une troupe qui va le sortir de l'anonymat, puis très vite lui aussi comprend que c'est une erreur, et fuit Breton et les surréalistes. Donc c'est une position effectivement là aussi très singulière. Plus de ça, je pourrais ajouter quand même un peu méchamment que Breton avait du romantisme germanique dont il se prévalait, tellement une connaissance extrêmement hasardeuse, puisqu'il ne parlait pas allemand, et que Balthus, qui lui parlait couramment allemand, pouvait considérer cela que comme avec une certaine ironie, disons.
Oui, c'était un électron libre, ouais. Il n'avait pas envie de se
il
soumettre.
Pas du tout envie de se soumettre, surtout pas d'André Breton.
Du manifeste, oui.
Ouais.
Et puis, est-ce qu'on peut peut-être caractériser sa recherche, son ambition ou sa quête?
Oui, on a déjà dit qu'au fond, ce qu'il voulait, c'était redonner à la peinture l'éclat qu'elle a perdu, c'est-à-dire la possibilité de réaliser des chefs-d'œuvre, témoignant donc de la grandeur de l'esprit humain, refaire de la peinture le lieu de quête de la beauté, à une époque où tout de même celle-ci est singulièrement déniée, redonner à la peinture la capacité de raconter des histoires alors que l'on prétend partout qu'elle ne peut rien dire, qu'elle ne veut plus rien dire. Je crois que ça a été ça, son ambition. Mais quelle ambition étonnante!
Absolument. Et juste.
Et je crois juste, enfin je crois effectivement qu'il l'a réalisé en grande partie.
Il y a encore beaucoup à découvrir autour de Balthus, de l'homme et de son univers. Encore un peu de Monteverdi, la musique préférée de Balthus, avant de vous poser quelques ultimes questions, Jean-Claire. Balthus, dernière partie de l'émission en compagnie de Jean-Claire, le spécialiste de cette grande figure de l'art moderne qui est l'objet de toute notre curiosité. Et notre curiosité est d'ailleurs forcément éveillée à l'idée que vous-même, Jean-Claire, avez assez bien connu Balthus. Et de vos rencontres, quelles impressions pouvez-vous nous transmettre et peut-être aussi quelques anecdotes nous rapporter ?
Oui, c'est un peu difficile parce que je n'ai connu Balthus, il faut que dans les 20 dernières années de sa vie, Je l'ai vraiment découvert quand j'ai vu la première rétrospective de Balthus, dont on pourrait parler quand même, parce qu'elle est singulièrement oubliée. Elle avait été faite au Musée des Arts Décoratifs à Paris en 1966 par un homme tout à fait remarquable. J'ai plaisir à citer le nom parce qu'il est oublié, c'était François Mathé. Et là, il y avait pour la première fois l'œuvre de Balthus qui était exposée et on pouvait prendre la mesure de du génie du peintre.
En quelle année, pardon ?
C'était en 1966, au Musée des Arts Décoratifs. Et par la suite, je l'ai rencontré, lui, en pied, en cap, si je puis dire, à la Villa Médicis, en 69, lorsque j'avais été chargé de faire la rétrospective Giacometti dans les murs de l'Académie de la Villa Medici. Et Balthus, je me souviens très bien, m'attendait sous le porche de la villa, moitié en kimono d'un côté, enfin en costume, japonais et en sabot. Moitié mandarin et moitié paysan bourguignon, ou morvandio, si vous voulez.
Oui, il avait un côté comédiante.
C'est ça, très comédiante. C'est le personnage que j'ai vu, que comédiante, même un peu agaçant, surtout dans les premières années de la villa, où il jouait ce rôle de grand seigneur.
Il signor Conte.
Il signor Conte, exactement, oui. Dont la villa, dont la demeure très noble, était le lieu des plus hautes réjouissances qui attiraient toute la bonne société romaine, mais aussi des personnages assez étonnants comme Federico Fellini, qui était devenu son grand ami. Donc là, si vous voulez, le jeune historien que j'étais se sentait un petit peu largué, comme on dirait aujourd'hui. C'est plus tard, beaucoup plus tard, lorsque je suis allé à Rossinière, que j'ai commencé à voir l'homme qui était là. Sous les déguisements les plus, comment dire, un peu vulnérables, très vulnérables au fond, sous les déguisements flamboyants qu'il avait assumés toute sa vie. C'est là qu'on a commencé à parler, mais ce n'était pas un homme qui parlait beaucoup, qui se livrait beaucoup, qui détestait que l'on parlât de lui, donc l'approche n'était pas très simple. Ou bien on parlait de tout et de rien, ou bien si l'on parlait de choses sérieuses, le silence s'établissait très vite. Donc je n'ai jamais eu l'habileté de faire parler les gens. Donc voilà, mais en tout cas, si vous voulez, une espèce de proximité s'est établie dans les toutes dernières années de sa vie à Rossinière. Je suis allé le voir plusieurs fois. Au fond, lorsque j'ai pu commencer à lui parler de Pierre-Jean Jouve, par exemple, cela établissait des liens d'amitié, enfin, en tout cas une complicité intellectuelle, parce que en dehors de Starobinski, il y avait très peu de gens qui avaient fait le ou de Pierre Léris. Très peu de gens avaient insisté sur l'importance des liens intellectuels qui avaient lié Jouve et Balthus pendant très longtemps. Donc voilà, le personnage était très difficile, en dehors même du fait qu'il était très, très ironique et d'une ironie souvent très mordante, en particulier vis-à-vis de ceux comme moi qui avaient l'impudence de proposer des explications de ses œuvres.
Oui, qu'est-ce qu'il racontait que... Le pauvre, je ne sais plus à qui il faisait référence, il ne pouvait plus voir un arbre parce qu'il était incapable de peindre un arbre. Donc, il devait fermer les yeux devant les arbres. C'était pas Mondrian, non ?
C'était Mondrian, exactement. Oui. Mondrian, dont il admirait la qualité de peintre qui avait fait, effectivement, qui avait dessiné, peint des arbres magnifiques. Début de son métier de peintre, et qui, par la suite, s'était tellement fermé aux arbres qu'il était incapable de peindre un arbre. Pour lui, c'était l'exemple même de la déviation, perversion d'un certain art moderne.
Oui, oui. Et puis, c'est peut-être un moment triste, mais pouvez-vous brièvement évoquer l'enterrement de Balthus quand vous vous êtes rendu à Rossinière ?
Oui, c'était en plein hiver et c'était un extraordinaire, j'ose pas dire spectacle, c'était une grande fête, c'était véritablement une grande fête, comme on n'en avait pas vu depuis très 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 longtemps avec... l'évêque de Wrocław, de Breslau, qui était venu avec deux acolytes dans les grands habits cardinalis qu'il convenait de porter. Toute une bonne société parisienne s'était déplacée. C'était véritablement un spectacle à la fois émouvant, pathétique, un peu, je dirais pas ridicule, mais un peu extravagant, et par le lieu et par la saison. Et en même temps émouvant et chargé d'émotions, en particulier le cercueil porté par ses deux fils. Il y a eu des moments très, très étonnants.
Il est mort en 2001
Je crois que c'était en 2001, oui.
Oui, il avait 93 ans, oui.
C'est ça.
On va le faire revenir à la vie, évoquer maintenant, enfin, on aimerait beaucoup avoir votre regard personnel sur quelques œuvres choisies donc, par vous dans cette rétrospective de Balthus à Martigny. Nous avons longuement parlé du passage du commerce Saint-André, mais il y a combien d'autres chefs-d'œuvre ?
Oui, il y a le pendant du passage du commerce, qui est la rue de 33, qui est à peu près prise au même endroit géographique que le passage. C'est rue de Bussy. C'est un tableau qui semble, là aussi, surréaliste par son étrangeté, mais qui, en fait, relève d'une autre poétique. C'est un très beau tableau qui est au MoMA. C'est les Américains les premiers qui ont acheté Balthus. Vous avez, malheureusement, qui n'était pas à Martigny, La Chambre, est un magnifique tableau. Les paysages de Chassy, les paysages du Morvan, qui sont admirables. C'est un des rares peintres qui a su renouveler l'art du paysage. Difficile à dire, choisir certains
oui,
portraits,
ou alors la
bien
toilette
sûr.
De Cathy.
La toilette de Cathy, bien sûr, qui est inspirée des dessins qu'il avait faits pour Léo de Hurlevent des sœurs Brontë, qui là aussi relève un peu du monde de des contes de Grimm pour les enfants, avec la jeune fille, le jeune garçon et l'espèce de, comment dire, de vieille femme dont on ne sait pas trop bien si elle est bénéfique ou maléfique. Dans le fond, l'espèce de fée Carabosse qui est là pour veiller sur les enfants et pour assurer les rites de passage de l'enfance à l'âge adulte.
Oui, oui. J'ai lu quelque part quelques lignes qui m'ont intriguée. Il est question peut-être au sujet de la leçon de guitare, mais je ne suis pas sûre. Le réseau des lignes invisibles qui conditionnent leurs gestes, l'essentiel de leurs attitudes est régulé par des déclinaisons et triangulations du nombre d'or.
Quand je serai rentré chez moi, je vais me précipiter avec quelques instruments simples de géométrie pour vérifier que le tableau est bien construit sur le nombre d'or. Je suis toujours un peu sceptique vis-à-vis de ces reconstructions a posteriori. Je crois qu'effectivement, tous les peintres ont la section dorée dans l'œil, si je puis dire, ça va de soi. Mais c'est vrai que tous les tableaux de Balthus sont construits sur une grille extrêmement précise. On peut d'ailleurs, sur certains tableaux, voir la grille.
Oui,
sous la peinture, carrément.
Les esquisses géométriques,
tout à fait,
la composition géométrique à la base.
Il utilisait véritablement, on appelait ça un graticule ou un portillon pour mettre en place les éléments du tableau. Il n'y a pas de doute, oui, c'est vrai.
Et puis, vous avez été directeur du musée Picasso, vous avez évoqué Picasso tout à l'heure. Alors, Picasso-Balthus, que peut-on dire d'une confrontation entre ces deux figures majeures du XXe siècle que vous connaissez
oui.
si bien?
A priori, ils sont très éloignés l'un de l'autre. En fait, je l'ai dit tout à l'heure, ils étaient géographiquement très proches, puisque Balthus habitait donc au passage de Rouen. Et Picasso, à l'époque, habitait rue des Grands Augustins, à quasiment 300 mètres de chez Balthus. Donc, ils se croisaient, ils se rencontraient. Et Picasso, un jour, est venu voir Balthus dans son atelier, à moins que ce soit l'inverse. En tout cas, j'ai retrouvé une photo dans les archives du musée Picasso où l'on voit Balthus et Picasso en train de se parler. Et comme vous le savez, Picasso a été l'un des tout premiers acheteurs de Balthus puisqu'il a acheté un très beau tableau qui se trouve au musée Picasso maintenant, Les Enfants Blanchard. Tableau des années 30, 32, 33, si j'ai bonne mémoire. Et je crois que Picasso admirait Balthus parce qu'il voyait en lui aussi cette ambition de faire de grands tableaux, de faire des chefs-d'œuvre, de raconter des histoires. Donc, d'un peintre qui avait l'amour d'une certaine complexité de la peinture et pas d'une simplification de la peinture. Par ailleurs, ce serait amusant de faire un jour une exposition Picasso-Balthus en rapprochant des œuvres qui sont peut-être formellement assez proches les unes des autres.
On compte sur vous. Et puis, en forme de conclusion, pourriez-vous, en tant qu'historien de l'art et commissaire de l'exposition Balthus, soulever un pan du mystère Balthus ?
Première exposition que j'ai faite à Beaubourg, lorsque j'ai voulu faire la biographie de Balthus, je me suis heurté à sa fameuse maxime. Balthus est si l'on parle de moi, il faut dire Balthus est un peintre dont on ne sait rien. Point. Donc, c'était pas évident de pouvoir travailler avec cette espèce de diktat opposé d'emblée. Aujourd'hui, on sait à peu près tout de Balthus, toute sa vie, toutes de ses origines, toutes de ses parents, toutes de ses amitiés. C'est une des biographies les mieux fournies et les mieux éclairées qui soient parmi les peintres modernes. Quant à son œuvre, je crois effectivement qu'on commence à comprendre, à travers ses influences diverses qui l'ont nourri, que c'est une œuvre extrêmement cohérente, extrêmement rationnelle, je dirais pas rationnelle, mais en fait qui s'est développée de façon tout à fait logique à partir de différents foyers intellectuels et que l'on peut, au fond, ranger Balthus parmi les très grands peintres classiques du XXe siècle.
Nous arrivons malheureusement au terme de notre entretien. Un conseil toutefois, avant de nous quitter, où l'on peut voir la majorité des toiles de Balthus dans le monde, enfin en dehors oui. de l'exposition à Martigny, bien sûr.
Finalement, ces œuvres ont été recueillies, après beaucoup d'avanies et d'avatars, dans la plupart des grands musées, collections publiques donc, du monde. D'abord au Centre Pompidou, vous avez une bonne dizaine de Balthus, dont certains qui sont des chefs-d'œuvre. Vous en avez au MoMA, au Museum of Modern Art à New York. Vous en avez au Metropolitan Museum de New York, le Hirshhorn Museum à Washington. En France, l'essentiel est au Musée national d'art moderne, au Centre Pompidou à Paris. Vous en avez également à Troyes. Vous en avez à Amiens, au Musée de Picardie. En Grande-Bretagne, il y a tout cet aspect anglais de Balthus qu'on a assez peu évoqué. Vous en avez à la Scottish National Gallery. À Édimbourg, il y a la Tate Gallery, bien évidemment, à Londres. Donc, j'ai oublié la Suisse, tout de même, son pays d'adoption. Il y en a à la fois au musée Jenisch à Vevey, au musée de Lausanne et au Kunstmuseum de Berne, pour l'essentiel.
Merci beaucoup de ces conseils.
Merci à vous.
On peut faire le tour du monde donc, en rendant visite à Balthus. Jean-Claire, merci beaucoup de nous avoir réservé un temps précieux pour cet entretien très complet sur une des figures les plus importantes du XXe siècle artistique, Balthus, qui nous a laissé une œuvre, une peinture, comme vous dites, si unique en ce siècle, qui s'inscrit dans la descendance de David et de Courbet. Merci beaucoup, Jean-Claire.
Merci à vous.